Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1.
14h-15h.
La voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Caro.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre, émission un peu spéciale cette semaine. Je vous propose de réécouter nos visites de bibliothèque de ces quatre dernières années. Et on commence tout de suite avec la belle bibliothèque de Bruno Solo.
Bonjour Bruno Solo.
Bonjour Nicolas.
Merci de nous recevoir chez vous. On est en banlieue parisienne.
Ouais.
Dans une jolie maison avec un petit jardin, c'est très mignon. Et alors là, on vient de rentrer dans votre salon et on découvre cette bibliothèque incroyable, circulaire. Ça a été fait sur mesure, ça?
Ouais, c'était un mur arrondi. C'est pas un mur d'angle, c'est un mur, un demi-cercle. Et j'ai demandé à un menuisier de me fabriquer une bibliothèque qui épouserait cette forme si particulière. Et ça a été très compliqué, il a mis pas mal de temps, parce que c'est très difficile de faire des planches droites en bois et qui, d'un côté, paraissent droites et de l'autre côté, épousent une courbe très douce, ouais, comme ça. Donc c'est un vrai travail. Je suis très fier, je crois que c'est vraiment l'objet, le meuble que je préfère, déjà parce qu'il a été créé, il n'a pas été acheté comme ça, et que ça a été long, et que ça a été un travail de fou, et quand il a eu terminé, et que je lui ai indiqué, voilà, fais-moi des cases un peu plus grandes, ce sera pour les livres d'art, des plus petites pour les livres de poche, des moyennes pour les BD, des plus larges, des plus hautes. Donc elle est un peu anarchique comme ça, cette bibliothèque, et en même temps, bon voilà, elle est anarchique aussi dans son rangement, hélas, vous n'avez pas les images.
C'est une tour de livres, en fait, ouais, côté infini, parce qu'on ne voit pas la fin, mais évidemment, ça tourne beaucoup d'un côté.
Et il doit y avoir un truc comme 3000 bouquins.
Ouais, il y a beaucoup de livres. Et effectivement, là, comme ça, de loin, bon, il y a quelques beaux livres d'un côté, quelques BD de l'autre, mais sinon, j'ai l'impression que c'est pas hyper, hyper rangé, Bruno.
C'est mon drame. Elle a été rangée. Elle a été formidablement rangée parce que je suis assez maniaque. Elle a été rangée par auteur. J'ai même à un moment, j'avais fait des classements aussi par genre. C'était plus compliqué sur des petites. Et puis, j'ai eu un problème, c'est que quand j'ai fait fabriquer cette bibliothèque, j'ai stocké mes livres dans des cartons dans mon garage et il y a eu des pluies torrentielles. Mon garage étant en pente, les cartons se sont pétés la gueule et ils se sont déchirés et tous les livres se sont mélangés. Alors, il y a des blocs logiques où on retrouve des auteurs les uns à côté des autres et je me promets depuis 2-3 ans de tout reclasser. Mais c'est un travail de titan, parce que mais comme vous pouvez le voir, il y a une première rangée et une deuxième rangée. Il y a une couche et une sous-couche derrière.
Mais il y a quand même, c'est vrai, d'abord ces beaux livres qu'on voit en entrant. Donc beaux livres, c'est-à-dire grand format avec des photos très belles, etc. Ouais. Il y a du Bosch, il y a Miro, La Terre vue du ciel de Yann Arthus Bertrand. C'est des gros beaux livres qu'on a vraiment envie de...
Il y a tout un livre sur Guernica que j'aime beaucoup, qui me tient très fort à cœur, qui est toute une étude autour de l'œuvre de Guernica en noir et blanc. Il me tient à cœur parce que en 1977, avec mon père, j'ai fait un voyage aux États-Unis et qui était principalement motivé pour mon papa d'aller voir Guernica au Met de New York parce que Picasso avait dit « Tant que Franco sera au pouvoir, mon tableau ne sera pas » qui symbolisait l'oppression du peuple espagnol par les nazis et par les armées franquistes. « Mon tableau ne sera pas en Espagne ». Donc nous sommes allés quasiment pour plein de raisons, mais la raison principale qui poussait mon père à aller là-bas, c'était d'aller voir Guernica. Et je me souviens de son émotion puissante, bouleversante, transperçante devant ce tableau de Guernica et lui me tenant la main très fort, me la broyant quasiment. Et moi, bon, les cinq premières minutes très ému, et puis au bout d'un moment, envie de passer à autre chose, évidemment. Et envie d'aller voir l'Empire State Building. Et j'étais à New York. Mais voilà. Et c'est un cadeau qu'on m'a fait il y a quelques années. Et voilà.
On n'a pas dit, mais il y a un fauteuil magnifique à côté de votre bibliothèque, magnifique parce qu'il appelle vraiment à la lecture.
Ouais.
Hein, c'est un fauteuil semi-allongé.
Oui, voilà, c'est idéal pour lire, effectivement. Tu te mets comme ça. Alors moi, je suis petit, donc ça va, mes pieds pendent. Pour les plus grands, effectivement, c'est peut-être moins confortable. Mais moi, effectivement, c'est un endroit où, de temps en temps, j'aime bien juste tendre la main droite, puisqu'il est à gauche de la bibliothèque, tendre ma main droite, m'emparer d'un livre et le lire ou le feuilleter. C'est plutôt pour feuilleter. Quand je veux vraiment lire, je me mets dans une position plus concentrée, plus ramassée.
Alors, il y a beaucoup de romans aussi. Il y en a un qui m'attire l'œil parce que je l'adore. C'est Donald Ray Pollock, chez Albin Michel. Une mort qui en vaut la peine. C'est l'odyssée de trois frères, des desperados, voyous, violents.
Désespéré,
mais avec une force poétique. Vous aimez cet auteur, Donald Polar?
Je l'ai découvert grâce à un libraire qui m'a dit, je cherchais un grand polar. Je venais de terminer un Jim Harrison. Il me dit, ah, vous aimez Jim Harrison? Je dis, oui, tout à fait. Et il dit, est-ce que vous connaissez Donald Ray Pollock? Et donc, j'ai dit non. Et il m'a vendu Le Diable est partout.
Le Diable tout le temps.
Le Diable tout le temps.
Qui est juste à côté.
Voilà, qui est juste là, Le Diable tout le temps.
Enfin, à côté, qui est sur une autre
étagère.
Oui,
je sais, mais parce que je l'ai lu un bon moment et l'autre, je viens de finir de le lire. Donc, je l'ai mis là. Il fait partie de ce que je dois classer. Je m'en sortirai jamais, c'est horrible. J'ai pas envie de parler de ça.
Il y a du plus classique. Il y a Balzac, La Cousine Bête. Il y a Henri Muller, Tropique du Cancer.
La Cousine Bête, c'est mon préféré.
Raymond Queneau, Zazie dans le Métro, Marcel Aimé,
Pérec.
Steinbeck, Les raisins de la colère,
Pérec. Dingue de Pérec.
Ah, j'aime bien cette collection de livres de poche.
Aussi. Elle est belle, c'est la collection de poche un peu Pléiade.
Voilà, c'est ça.
Ouais, c'est tout Pérec, ça. Si j'avais été un écrivain, j'aurais aimé écrire comme Queneau ou Pérec. Mais Pérec, en plus, il a tout pour lui, une bonne gueule, un humour formidable. C'est un mathématicien de l'écriture, c'est-à-dire une écriture à la fois très douce, très délicate, très pointilleuse et en même temps complètement débridée et scientifique quand il écrit quand même La Disparition.
Ouais, sans E.
Livre de 300 pages sans la lettre E. Ouais. Et qu'il y a des critiques à l'époque qui s'en sont même pas aperçus, qui n'ont même pas vu et qui ont dit quel beau livre de Pérec. Et en fait, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte que dans la vie d'un homme, il lui manque quelque chose d'essentiel. Qu'est-ce que c'est? Il n'arrive pas à le définir. Et en fait, c'est une lettre, une simple lettre qui change son quotidien et sa vision du monde. C'est un livre.
Il suffit d'essayer de se faire une phrase dans la tête sans la lettre E pour se rendre compte à quel point c'est compliqué. Ouais, non, je suis dessus.
Mais attends, c'est...
Vous aimez la science-fiction aussi?
Ah oui. Je crois même que j'ai été initié à la littérature par la science-fiction. C'est Bradbury, Van Vogt, Simak, Wells, bien sûr, mais c'est plus ancien, mais dans les auteurs américains, Philip K. Dick, bien sûr, Richard Matheson. Je crois que vraiment, je suis venu à ça. Et un des tout premiers livres que j'ai eu, que mon père m'est donné, parce que c'est évidemment mes parents qui m'ont laissé ça, 20 meilleurs récits de science-fiction, il est abîmé, il est dans un état épouvantable. On y retrouve La Mouche, le fameux...
Cronenberg.
Voilà, adapté par Cronenberg, de George Langlan. Puis après, je me suis mis... Mais on a longtemps traité avec un peu de condescendance la littérature en France, notamment de science-fiction. Et puis, on y est revenu. Maintenant, on a découvert que des gens comme Philip K. Dick ou Ray Bradbury, c'était tout sauf juste des guignols qui écrivaient des histoires d'extraterrestres, mais des grands philosophes. Il faut avoir lu Demain les chiens pour se rendre compte à quel point c'est un livre vertigineux, quoi. Vertigineux que Inception n'a fait que s'inspirer, à mon goût, d'un livre comme Demain les chiens.
Et à côté des livres de science-fiction, on trouve fort logiquement Jean Echenoz, Courir, qui est la biographie romancée par Jean Echenoz de Zatopek, qui est un livre incroyable. Je vois qu'il est annoté.
Oui.
Pourquoi vous prenez souvent des notes comme ça?
Le tout premier film que j'ai produit, c'est quand même dingue, t'as un œil incroyable parce qu'on n'a rien préparé, là tu tombes là-dessus. Le tout premier film que j'ai produit il y a très 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 longtemps, en 2000, et film cinéma, c'est le seul film parce que maintenant je produis que pour la télé, ça s'appelait Un an. Et c'est un roman de Jean Echenoz. Et voilà, et j'ai lu Aérien, exactement.
C'est le livre que j'offre dès que j'ai une occasion,
c'est
un anniversaire, un truc comme ça.
Ah, c'est chouette, ça me fait plaisir parce que je trouve très délicat ce livre aussi.
Est-ce que vous avez un livre que vous offrez systématiquement?
C'est marrant que tu me poses la question. Il y avait un livre à un moment, mais c'est un peu vicieux de ma part, que j'offrais quand j'allais manger chez des gens. C'est Mangez-le si vous voulez, de Jean Tenet.
Qui raconte le fait divers d'un lâchage dans un village.
Mais pour des gens qui ne sont pas initiés à la littérature, déjà, le livre est très court, il est terrible, c'est un des livres, je crois, avec American Psycho, un des seuls livres que j'ai arrêté en cours de lecture parce que j'étais pris de nausée quand même. Tiens, ça c'est un des derniers livres que j'ai lus.
Amos Oz.
Amos Oz, Judas, auteur israélien, athée.
Qui frôle le prix Nobel chaque année.
Ouais, mais formidable, cette théorie sur Judas qui n'est pas le traître ayant vendu le Christ, mais au contraire celui qui aimait tellement le Christ qu'il a dénoncé pour prouver aux hommes qu'il allait ressusciter et voyant. Et c'est là que, évidemment, les théologiens ne sont peut-être pas d'accord avec Amos Oz. Voyant qu'il ne ressuscitait pas, choisit de se suicider parce qu'il dit décidément il n'est pas le fils de Dieu, il est juste un homme, comme vous et moi, un homme exceptionnel, certes. Et donc voilà, donc Judas n'est pas un traître, mais au contraire son plus grand fan, quoi. Et cette théorie est très belle et elle a été défendue par d'autres historiens, hein, je la trouve intéressante.
Bon Bruno, on pourrait rester des heures, on a fait à peine 1% de votre bibliothèque, mais on va vous laisser pour la ranger, pour prendre le temps de tout classer par ordre alphabétique.
Merci.
Merci beaucoup Bruno.
C'était chouette Nicolas, merci.
À bientôt,
beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Europe 1. La voix est libre. Nicolas Carreau.
La voix est libre, suite spéciale visite de bibliothèque cette semaine et nous partons chez la comédienne Clémentine Sellary.
Bonjour
Clémentine Sélarié.
Bonjour.
Merci de nous recevoir. On est à Paris, mais quand même dans une petite maison. C'est fou ça.
Toute petite, enfin.
Toute petite, mais maison
mais
quand même.
Un petit peu en hauteur, oui, c'est parce qu'il y avait une cave et moi j'ai des enfants, surtout un qui fait de la musique, du jazz et tout. Donc il faut une cave pour qu'ils répètent, quoi.
Oui. Il y a une bibliothèque dans l'entrée, mais il y a aussi beaucoup de livres dans le salon, là.
Oui.
Ce sont vos livres préférés, ça, pour vous ?
Alors, mes livres, en fait, comme je savais que vous veniez, ouais. que je ne voulais pas trop vous montrer ma chambre, parce que c'est un bordel absolument innommable. Mais bon, je peux vous la montrer quand même, à un moment donné. On peut y aller,
c'est
gentil,
parce que,
voilà, mais de toute façon, c'est sonore,
quand
donc,
même.
Bon, il n'y a que vous qui allez la voir. Mais du coup, j'ai descendu les bouquins qui sont sur mon lit, quand il n'y a pas d'homme, vous voyez, dans mon lit, je veux dire, parce que je n'aimais pas les bouquins sur l'homme, le pauvre, enfin, je n'emmure pas un homme dans mon lit, si vous voulez. Donc, je vous ai descendu vraiment mes préférés.
Toute la collègue.
Enfin, ceux qui, avec qui, lesquels je bosse ou que j'aime bien avoir à côté de moi, quoi.
Alors, celui qui est au-dessus de la pile, c'est curieux. Le dictionnaire des symboles dans la belle collection
en fait,
bouquin.
J'ai confondu parce que celui que j'aime, moi, c'est le dictionnaire des rêves.
Ah,
c'est pas grave.
Il est bien aussi.
C'est parce que, mais ça, c'est intéressant parce que. Quand on va, on cherche n'importe quoi au pif. Moi, j'aime bien aller dans un livre au pif, hein, c'est chouette. Froc, bon non, fronde, Thierry Lafronde. Pour les Incas du Pérou, la fronde était l'arme. Vous voyez, il y a plein d'informations très passionnantes. L'œuf considéré comme contenant le germe à partir duquel se développera la manifestation, est un symbole universel qui s'explique de lui-même, la naissance du monde à partir d'un œuf. Bon, voilà, d'accord. Bon. Alors, moi, le dictionnaire des rêves, c'est passionnant.
Pourquoi il y a Patrick Peloux juste en dessous?
Ah, parce que Patrick Peloux, c'était mon voisin, c'est vrai. Ouais. Parce que d'abord, je l'aime beaucoup. Franchement, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup ce qu'il véhicule, ce pourquoi il se bat et contre quoi il se bat. Il était mon voisin au salon de Brive et je lui dis tiens, tu me le passes. Alors,
ah,
il passe un livre à toi, il me l'a dédicacé. Oh,
ouais, on peut lire, c'est
perso. Non, mais non, c'est perso.
Okay, okay.
Je t'aime pour toujours, c'est marqué. Voilà. Tu es la plus belle femme du monde. Voilà, mais c'est personnel. non, c'est pas vrai, c'est une blague. Ça, j'adore. Une bouche sans personne. Alors, ça, c'était à Rouen. C'est Hélène qui m'a fait découvrir Gilles Marchand.
Je connais pas, j'avoue.
Ah, mais c'est dément, ça. Il faut que vous lisiez ça. C'est plein de mystères. C'est très, très bien écrit. Et donc, j'ai découvert... C'est chouette quand on fait des salons et quand on va dans des librairies. Ouais. Parce que d'abord, on rencontre des gens formidables, souvent. Et on rencontre des libraires passionnés et qui nous font découvrir d'autres bouquins. Vous voyez,
ouais,
c'est très, très chouette.
Un auteur qu'on ne connaissait pas jusque-là,
voilà.
Avec qui on avait vécu,
voilà.
Sans qui on avait vécu depuis si longtemps.
Oui.
Et on se dit, mais comment j'ai fait?
Oui, et on se sent connecté. Par exemple, il y en a un autre, et il est là. C'est Despneaux, François Despneaux.
Oh là là,
Deux jours
pas.
À tuer, mais si, vous connaissez plein de trucs. Maupassant, vous connaissez ?
Oui,
Stéphane Zweig.
Un jeune type qui débute, oui.
Voilà, Yann Kefelec.
Oh, Yann Kefelec.
Alors, moi, c'est celui-là, mon préféré.
Les Noces Barbares, le prix Goncourt.
Pour moi, c'est l'amour, en fait. C'est le contraire. Enfin, ça raconte le contraire, mais justement, ça raconte l'histoire d'un être qui, lui, un enfant qui a plein d'amour et qui est incompris de tout le monde, quoi. Et c'est. Je trouve ça, mais écrit, mais.
Oh, il est sorti en 90 de mémoire. Vous l'aviez lu. À ce moment-là, ou
non,
vous l'avez
tout.
Découvert sur
J'ai
le
découvert
tard.
Après.
D'accord.
Et je crois que c'est maman qui m'a fait découvrir beaucoup de bouquins, qui m'a dit « Lis ça, tu as lu Les Noces Barbares de Kefelec ?» Et du coup, je l'ai lu et ça m'a prise complètement. C'est les premières, juste les premières lignes. « Le bain refroidissait, Nicole émergea. Ruisselante, elle décrocha la serviette éponge et se frictionna longuement. Les parfums croisés de la campagne et du pain chaud faisaient monter en elle une langueur qui la berçait. » Juste ça. Déjà, on y est. Vous trouvez pas ? C'est dingue.
Il y a quand même là.
Je suis très, très passionné par lui.
Il y a deux énormes livres sur Maupassant, des recueils de nouvelles.
J'ai lu et relu. J'ai...
Donc, toujours chez Bouquin. Heureusement qu'ils sont là, Bouquin.
La première personne qui m'a fait découvrir Maupassant, c'était Gérard Guillaumin, qui lisait ça quand j'avais 16 ans. Donc, ça fait longtemps. Et en fait, ça m'a choquée beaucoup. C'est comme ça que je suis devenue comédienne. C'est parce que j'ai vu, vous voyez, cet homme lire. Ça, je me suis dit, il faut faire ça. Il faut que je fasse ça. Que je raconte des histoires. Donc, c'était les contes de la Bécasse. Là, il y a toutes sortes de contes mélangés. Là, le truc, c'est que c'est un peu lourd.
Il faut s'asseoir et poser sur les genoux, quoi.
Ouais, enfin, s'asseoir.
C'est quoi votre nouvelle préférée ?
Une vie.
Oh !
Mais c'est géant. Belle amie aussi, bien sûr. L'enfant, il y a deux enfants en plus. Il y a deux nouvelles qui s'appellent L'enfant, qui sont géniales.
C'est joli
ça,
ce vieux bouquin chez Julliard, là.
Oui.
Le foot bassin.
Je sais pas ce que c'est.
Ouais, mais c'est
ça,
un livre ancien, c'est vraiment beau.
En Bretagne, Fred, qui a une brocante, et je trouvais que c'était marrant. Alors ça, il y a.
Oh là 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 là.
La maison dans laquelle Mariam Petrossian, ça c'est un
chez
bouquin.
Chez Monsieur Tous à l'ouverture.
Voilà.
C'est un livre
Ça, on me l'a donné à Mulhouse. Mmh. Des libraires à Mulhouse qui m'ont invité dans une soirée dingue où j'ai lu mon bouquin À la folie, j'en parle quand même, je glisse ça, c'est mon livre, mon nouveau roman.
Bien sûr.
À la folie, voilà. Si on cherche midi, 16 €, je ne sais pas quoi. Non, je rigole, qui dit ça coûte, machin. Eh bien, c'est quelqu'un, je ne sais plus comment il s'appelle, Thierry, enfin, pardon si je me trompe de son prénom, qui m'a offert ça. Il m'a dit, tiens, ça c'est pour toi, parce que ça te plaira.
Parce que c'est
apparemment,
fou.
C'est bien barré. Ah ouais, ça a l'air.
C'est
mais,
russe,
mais c'est
plus.
Beau. Mais oui, mais c'est. Alors j'ai commencé, et c'est oui, c'est très prenant. On est pris dans un espèce de tunnel, quoi, comme dans un, voilà, un endroit un peu mystérieux, quoi. D'accord. Oh tiens, ça c'est. Oh, c'est marrant que je trouve ça.
C'est quoi?
Ah oui, montre-moi. Alors, ça, c'est un bouquin de mon père.
Ah.
Mon père, qui s'appelle André Sédarier, a écrit Le carnet de route d'un enfant de cœur, Nicodème. Et c'est très chouette, c'est plein de souvenirs. Et c'est édition Montourgard, hein. C'est comme ça je fais de la
votre
pub.
Votre père qui était journaliste radio.
Ah oui, absolument. Alors, à télé et tout ça, et voilà. Et puis, il a fait un bouquin qui est sur des souvenirs à lui, mais mis. Nicodème, c'est quelqu'un qui se faisait souvent avoir, quoi. Donc, c'est très, très mignon. C'est, voilà, il a un site, hein, papa. Si vous voulez le voir, c'est sur son site. Comme ça, je lui fais de la
joli,
pub.
Ouais.
Vous voyez, j'ai d'autres bouquins de lui. L'octogénaire, plaisir et les pièges. C'est très chouette, vous voyez cette photo là, deux personnes, c'est le mur en Irlande et deux personnes leur tombe se font ouais, se serrent la main avec une statue. C'est une très belle image.
C'est le titre de la tombe d'à côté, quoi.
Voilà, ça c'est sur la maillie de Charcot. J'ai toujours des choses dans ma bibliothèque sur la maladie de Charcot. Ben oui, parce que je suis très concernée. J'ai une amie qui s'appelle Lorraine, qui l'a, cette maladie, ouais, et qui est un truc abominable. Et d'ailleurs, il faut se bouger les fesses avec ça, parce qu'on n'en parle pas assez, de toute façon. Mais qu'est-ce que c'est, ça? Ah oui, il y a Georges Sand aussi.
Ah, la Pléiade.
Des passages avec...
Elle a bien servi, cette Pléiade.
Ah, mais c'est magnifique, ce qu'elle raconte avec Chopin et tout ça. Ça serait bien de lire ça à des jeunes ados. Aujourd'hui, il y a des trucs magnifiques, quoi. Mais comme ils sont trop, là, un peu embrigadés par le système et tous ces trucs de réseaux sociaux, de machins et de trucs, c'est dommage, parce que la lecture, c'est un truc... Qui vous fait du bien, quoi. Enfin, profondément. Vous voyez ce que je veux dire, qui est fondamental.
Bon, ben, merci beaucoup, Clémentine Sélarié, parce que j'ose pas vous demander de nous faire visiter votre chambre. Donc,
venez, parce que vous êtes gentil.
Bon, ben, allons-y.
Mais juste comme ça, pour voir, vous venez, hop, et puis vous partez.
Ouais, d'accord.
Parce que sinon, vous allez avoir une
Sauf
attaque.
Sauf si je vois vraiment un bouquin qui m'interpelle, quoi.
Non, mais vous allez rigoler, hein. Mais voilà, hein. Vous dites à personne, surtout. D'accord. Donc, vous avez vu, il y a plein de bouquins là.
Mais oui, où est-ce que vous dormez?
Mais je dors là.
À côté de vos bouquins.
Alors voilà, La falaise, au pied de la falaise, by Moko. Ça, c'est un cadeau que j'ai eu pour mon anniversaire. C'est une BD qui est très belle sur l'Afrique et tout ça, sur un village en Afrique. Il y a Edmond, parce que j'étais voir Edmond, parce qu'il va y avoir un film. Edmond, vous savez.
Oui, la pièce, je l'ai vue.
Michalik, voilà, que j'ai adoré. Et il va y avoir un long métrage fait. Et je vais jouer Sarah Bernard.
Ah, super.
Donc je suis très, très
beau
heureuse.
Rôle en plus.
Magnifique. Oh, c'est un petit rôle, mais c'est magnifique.
Clémentine, c'est quoi ce vieux bouquin-là?
Quoi? Où?
Bah,
ah, ça, c'est moi qui écris. C'est moi qui écris l'adaptation. C'est beau, hein? C'est un
mais
truc qu'on écrit dedans. Ben c'est des vieux bouquins en parchemin.
Ah ouais, c'est
oh, il est gentil, Julien, n'ose pas regarder.
Venir, mais bien, Julien, c'est le technicien.
N'inquiétez pas, on va
l'ingénieur du son, viens.
Il y a John Cazavette, des DVD. Il y a...
C'est vrai que le lit à baldaquin est impressionnant.
C'est chouette, voilà. Puis là, il y a du truc, enfin, voilà. Mais voilà, c'est
bon,
bien.
On s'en va.
Chut,
on veut pas.
Regardez pas.
Voilà.
Oui, on a la chance. Vous savez qu'ici, avant, c'était un club de jazz.
Ah ben c'est cette ambiance-là, effectivement.
C'est incroyable. Il y a Django Reinhardt qui a joué ici. Enfin, c'est dément. On a beaucoup, beaucoup. Enfin,
merci.
De rien.
Merci beaucoup, Clémentine, de nous avoir reçus.
Merci à vous. Vous avez vu, je vous ai quand même montré mon ventre.
Ouais, c'est
chambre,
gentil,
c'est
vraiment.
Ventre, hein.
Merci beaucoup.
À vous. Merci, au revoir.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue, spéciale visite de bibliothèque. Et justement, parmi les très bons souvenirs, il y a la bibliothèque d'Isabelle Carré, la comédienne écrivaine.
Bonjour Isabelle Carré.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous. On est en plein Paris, dans un appartement tout petit.
Oui, et il y en a un peu
très
partout,
cosy.
Il y a plusieurs étages. Des toutes petites pièces, oui.
Avec rempli de livres.
Un bordel. Je suis contente que ça soit pas une caméra, je vous assure.
C'est ça ce qui est fou avec la radio, quoi. C'est que ça me permet de rentrer chez vous.
Sinon, je
si
vous aurais
une caméra, j'aurais
non,
pas pu
il
venir.
Il n'aurait pas eu moyen.
Mais alors, là, donc, on est dans une petite pièce.
Qui est censée être un bureau.
Sur lequel sont posés plein de livres. Ça doit être compliqué de travailler dessus, là.
On ne peut pas, ouais, en fait. On travaille sur la table de la salle à manger. Ce bureau, en fait, c'est l'endroit où on essaye de mettre le plus de livres possible Mais là, il y a déjà plus de place.
Et là, il y a deux murs donc remplis de livres. Bah, c'est oui. plutôt des beaux livres ici.
Oui, alors en dessous, non, c'est voilà, plein de livres
en vrac.
En vrac qui viennent de sortir et qu'on vient d'acheter. Et en haut, là, il y a tous les livres de photos.
Marilyn Monroe.
Voilà, moi, alors ce que j'adore, c'est New Francesca Woodman, là.
Ah ouais.
C'est Michel Spinoza, qui. J'arrive pas à l'attraper. Attends. Ah si, voilà. C'est Michel Spinoza, en fait, avec qui j'avais tourné dans Anna M, qui m'avait fait découvrir la photographie, dont Francesca Woodman. Et depuis, je suis complètement dingue de. J'ai même la chance d'avoir une photo d'elle.
Ah oui.
C'est mon trésor précieux, cette photo de Francesca Woodman. C'est le seul trésor que j'ai.
Ce sont des photos en noir et blanc.
Elle se met en scène elle-même et c'est toujours dans des choses de apparition-disparition. Mmh.
Oui, il y a quelque chose de fantomatique.
Voilà, c'est ça. Les fantômes ne me dérangent pas à partir du moment où c'est des aussi jolis fantômes qu'elle, là, comme on la voit, contre un mur flou avec une grande natte. Ses cheveux, où là, par exemple, elle s'est mis... des copeaux de bois autour des poignets et des bras, et on a l'impression qu'elle-même est devenue un peu comme un arbre. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette photographe. Mais voilà, Michel Spinoza m'avait fait découvrir aussi Cindy Sherman.
Qu'est-ce que vous lisez en ce moment ?
En ce moment, je lis le dernier livre de Aaron Appenfeld. J'avais adoré Les Partisans.
Qui est mort
il y a un mois à peu près.
Ouais,
voilà.
Ouais, ouais.
Et ce livre est magnifique.
Israélien.
Mais il est là-haut.
D'accord, bon, on va aller voir. Là, on est dans l'escalier.
Voilà, c'est en fait pour.
Toute une bibliothèque dans l'escalier. C'est
caser
magnifique.
Ces livres qu'on n'arrivait pas à caser. Et voilà, et là, par exemple, on peut voir beaucoup de livres sur Sylvia Plath. Je voulais faire un spectacle sur elle. Mais en fait, c'était très compliqué d'avoir les droits.
Ouais.
Sa fille qui a les droits s'y oppose et du coup on avait travaillé pendant des mois sur un spectacle qu'on n'a pas pu faire. En fait, dans mon livre, j'ai même mis un poème d'elle. C'est un texte que j'aime beaucoup. Ah mais je crois qu'il est là-haut en fait parce que j'ai l'anthologie de ses poèmes. Et en fait, c'est un poème je crois qu'on trouve dans Arbres d'hiver et qui s'appelle Vertical. Ça commence par « Je suis vertical mais je voudrais être horizontal
». Mais qu'est-ce qui vous plaît chez elle ?
Ce qui me touche beaucoup, c'est déjà dès ses journaux, quand elle a 17 ans, et puis tout au long de tout ce qu'elle écrit, on sent un tel doute. Et on sent qu'elle est toujours en train de dire « j'aimerais écrire », et en fait, elle est en train de le faire. Elle est en train d'écrire des choses magnifiques, mais elle ne cesse de se projeter vers un futur où elle serait capable... d'écrire ce qu'elle a dans la tête et elle voit pas qu'elle est en train de le faire et que c'est magnifique ce qu'elle fait. Et ça me touche beaucoup parce que j'ai l'impression que oui, parfois on n'est pas le meilleur juge pour soi-même et son œuvre en fait, elle l'a conçue sans le savoir. Par exemple, je crois que c'est là une des premières lettres magnifiques qu'elle écrit je crois à sa mère. Oh, je sais pas si je vais le trouver. Ça, c'est « Je me croyais invulnérable ». C'est pas celle-là. C'est une lettre, en fait, où elle s'appelle elle-même « La fille qui voulait être Dieu ». Ni plus ni moins. Voilà, c'est ça. « À compter d'aujourd'hui, je vais tenir à nouveau un journal afin d'y coucher mes pensées et mes idées, quand j'en aurai le temps. Il faut absolument que je préserve ce miracle, avoir 17 ans. Chaque jour m'est si précieux que je suis terriblement attristée en voyant le temps m'échapper alors que je vieillis. C'est à présent que je vis le meilleur de ma vie. En ressongeant aux 16 années déjà écoulées, je revois les heures de bonheur et de malheur dans leur relativité avec leur importance fort relative et elles me tirent toutes le même sourire. J'ignore encore qui je suis, peut-être l'ignorerai-je toujours. Mais je me sens libre, dégagée de toute responsabilité, libre de m'isoler dans ma chambre entre mes murs couverts de dessins ou de photos. Ma chambre me convient parfaitement. Paisible, peu encombrée, bien arrangée. J'adore la ligne paisible des meubles, les deux étagères pleines de recueils de poésie ou de livres de contes conservés depuis mon enfance. En 7 heures, je suis très heureuse, assise à mon bureau, d'où je vois les arbres dénudés de la maison d'en face. Je désire observer toujours. Je désire être profondément touchée par la vie, sans jamais être aveuglée, au point de ne pouvoir voir mon sort d'un œil plein d'humour, ni rire de moi-même comme je ris d'autrui. Je redoute de vieillir, je redoute de me marier. Que me soit épargnée l'obligation de cuisiner 3 fois par jour, épargnée l'inexorable piège de la routine et de l'encroûtement. Je veux être libre, libre de connaître des gens avec leur passé, libre de découvrir d'autres milieux et d'autres morales, ou d'autres critères que les miens. Je crois que ce que je désire, c'est d'être omnisciente. Si je devais me donner un nom, ce serait la fille qui voulut être Dieu.
C'est magnifique. Mais à la fois, c'est terrible d'être très heureux, vraiment comblé, et en même temps se dire déjà qu'on va forcément être malheureux parce qu'on vieillit.
Perdre quelque chose en vieillissant. Je crois tout le contraire.
Vous n'êtes pas d'accord avec elle?
Ah non, je ne suis pas du tout d'accord avec elle, mais ça me touche qu'elle pense ça. Et je vois son inquiétude, c'est ça qui me touche, c'est ce personnage, c'est cette femme. C'est son inquiétude, sa fragilité, l'idée que... comment dire oui, être Dieu, quoi. Cette pression qu'elle se met elle-même de performance, de parvenir toujours, ce que je disais tout à l'heure, à écrire de grandes choses, sans s'apercevoir qu'elle est en train de le faire, sans s'apercevoir qu'elle a déjà cette beauté en elle.
Je vois des Daniel Pénac juste à côté. Tout le monde a des Daniel Pénac dans sa bibliothèque. Mm-hmm. Vous aimez bien ?
Moi, j'aime bien et j'aime beaucoup l'homme.
Oui.
J'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois, même d'aller manger un couscous avec lui, qui sait écouter, qui s'intéresse vraiment aux autres, qui n'est pas que dans son univers, qui sait en sortir pour vous accueillir aussi.
Je parie que votre préféré, c'est Chagrin d'école.
Je sais pas. J'ai du mal à dire quels sont mes préférés.
Bah, en tout cas, il y a beaucoup de pages cornées.
Oui, mais ça, je corne beaucoup.
En marque-page.
Et non. Et j'abîme le livre. Et même, parfois, je souligne et j'écris des choses. Ou alors, ce que je fais aussi beaucoup, c'est que je recopie. Mais je recopie des phrases et ça me fait des cahiers avec plein de phrases. Mais quand je commence à recopier tout le livre, là, je me dis, faut que j'arrête, quoi. J'ai qu'à le relire, en fait.
Mais est-ce que vous les relisez ?
Oui, oui, ça m'arrive. Par exemple, cet été, j'ai découvert Carson McCullers. Je ne connaissais pas du tout.
Ils ont tout réédité chez Stock.
Voilà, j'ai profité de cette réédition. Je suis bien reconnaissante à Stock d'avoir fait ça. Et l'édition, en plus, est magnifique. Et j'ai découvert, surtout le cœur est un chasseur solitaire, mais j'ai tout lu, du coup, même ses nouvelles. Et j'ai adoré parce qu'elle parle de cette intériorité, d'une solitude qui pousse les gens à rentrer dans les cafés parce que c'est allumé et parce qu'on peut se réchauffer les uns aux autres, même sans se parler, juste en se côtoyant. Et j'aime beaucoup les gens, en fait, les auteurs qui savent pénétrer dans l'intériorité des personnages et on a l'impression qu'on vit en eux. Et cette solitude aussi, c'est toujours un thème qui me touche beaucoup.
C'est fou parfois de découvrir un auteur et de se dire comment j'ai fait avant.
Sans lui ?
Ouais.
Eh oui. Mais ça, c'est une source d'angoisse.
Eh oui.
Rater un auteur, quoi.
Parce que ça veut dire qu'il y en a forcément qu'on n'a pas découvert, mais qu'il reste à découvrir. C'est ça ce qui est beau aussi.
Voilà. Mais forcément, on va en louper, quoi.
Mais oui. Alors. Donc là, on arrive dans votre chambre.
Oui, c'est très intime.
Ouais, je suis un peu intimidée. Hein,
j'espère bien.
Et là, vous n'avez pas une table de chevet.
Non.
Vous avez un parquet de chevet avec des montagnes de livres à côté de votre lit.
Oui, et encore, j'ai fait le tri avant que vous soyez là parce que c'était encore plus bordélique.
Parce que vous n'arrivez pas à vous décider, savoir lequel garder à côté de vous précieusement ou c'est parce que vous avez eu la flemme de ranger ?
Non, en fait, j'aime bien qu'il soit là. C'est vrai que leur présence, c'est pas forcément... c'est des livres que j'ai lus pour la plupart, mais voilà, par exemple, Raymond Carver, qu'est-ce que vous voulez voir ? J'aime bien qu'il soit à côté de moi.
Paul Auster, 4-3-2-1 qui vient de sortir.
Qui est complètement corné dans tous les sens.
Il fait 1000 pages, c'est déjà un gros pavé, mais comme vous l'avez corné, il a encore pris plus de volume. C'est l'histoire, donc, d'un homme, mais avec 4 vies alternatives.
4 possibilités.
On l'a reçu dans l'émission il y a quelques semaines. Et donc, il y a chapitre 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1,
etc. Il aurait pu se contenter de faire première partie avec toute la vie, deuxième partie avec une autre possibilité de vie. Et ce qui est beau, c'est qu'en fait, il imbrique tout.
Ouais.
Et qu'il ne nous perd jamais malgré ça. Donc, c'est...
Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
J'ai adoré parce que je suis obsédée, moi, par les choix. Le fait, qu'un choix, même infime, puisse influencer toute notre vie. Je suis complètement obsédée par ça. Dans Les Rêveurs, à la fin du livre, je parle d'une lettre qui a été déchirée, trop tôt, ou trop vite, et qui fait que je suis là aujourd'hui. Si cette lettre n'avait pas été déchirée, je ne serais pas là en train de vous parler. Un livre que j'adore c'est une pièce de théâtre d'ailleurs, de Max Frisch, qui s'appelle Biographie en jeu. Et en fait, il lui demande, un personnage qui pourrait être le diable, lui propose au héros de changer un événement de sa biographie. Un événement qui a été pénible, douloureux, enfin, voilà. Et en fait, il essaye, le premier événement qui lui vient, c'est effectivement dans la cour d'école, il a blessé un camarade qu'il a rendu aveugle avec un pistolet de balle à plomb. Il dit ça vraiment, ça, j'aimerais vraiment le changer, quoi. Mais après, il se rend compte que s'il avait changé ça, il n'aurait pas changé d'école, il n'aurait pas rencontré telle personne, il n'aurait pas, etc. Donc il dit, non, finalement, ça ne va pas être possible de changer ça parce que j'ai trop besoin de... Puis après, il dit, on divorce alors, parce que c'était vraiment dans un bain de sang. Puis il se rend compte que s'il n'avait pas divorcé de cette façon-là, il ne se serait pas trouvé, rencontré telle personne après qui l'a consolé et qui finalement a été la bonne personne. Et il finit par se dire, je ne change rien. Ça me rassure.
Ouais. Juste à côté, il y a un de mes livres préférés, « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur » d'Harper Lee. C'est un livre de jeunesse ou vous l'avez découvert récemment ?
Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'était au mois de juin dernier, juste avant « Le cœur est un chasseur solitaire ». D'ailleurs, je trouve qu'ils ont des points communs.
Avec Carson McCullers ?
Oui. Ouais. Bon, déjà, ça se passe dans le sud.
En Alabama, c'est Scout qui raconte l'histoire de son père qui doit défendre un homme noir accusé d'avoir violé une blanche. Mmh. Et du coup, toute la communauté fait bloc contre cette famille qui défend un noir. Quoi.
C'est ça, et surtout, c'est le regard de cet enfant.
Ouais.
Moi, c'est ça qui m'a plu, c'est vraiment le...
12 ans.
Elle a 12 ans, et on a ses yeux, tout à coup, on voit comme elle voit, on pense comme elle pense, et je ne sais pas comment l'auteur a pu être aussi juste par rapport au regard d'un enfant, et elle est tellement attachante, et elle nous broie le cœur, quoi.
Et en même temps, il y a beaucoup de romanesque là-dedans. Mm-hmm. C'est une vraie histoire qui emporte, quoi, qu'on a envie de savoir ce qui va se passer, ouais, vraiment, quoi. Mm-hmm.
Oui, c'est ce que j'ai retrouvé aussi dans Carson McCullers, c'est-à-dire que peut-être on s'autoriserait moins ce romanesque aujourd'hui.
Ah tiens, François-Henri Désirable.
Ah oui, alors je ne l'ai pas encore lu. Pourtant, j'avais très envie de le lire et je ne l'ai pas encore lu.
Un certain Monsieur Piekielny parle de La promesse de l'aube.
La promesse de l'aube ici aussi.
Ah.
Et donc, j'avais très envie de savoir qui était cet homme.
Est-ce que vous aimez La promesse de l'aube ?
Oui, beaucoup.
Ah bah, ça va
comme vous avez
ça,
pu
forcément.
Constater, j'aime beaucoup les livres qui parlent de l'enfance. J'adore l'idée de ce François-Henri Désirable là, qui va enquêter sur un personnage de roman. Enfin, de roman, mais qui existe.
Ah ouais, un personnage de fiction qui existe ou qui n'existe pas, on ne sait pas vraiment.
Qui voulait, en fait, qu'on parle de lui dans Paris.
Oui, qui dit à Romain Gary, tu seras un grand homme, donc dis aux grands de ce monde que...
Que j'existe.
Dans telle rue à Villeneuve habitait un certain monsieur Piekielny.
Moi, ça me fait penser, un jour, j'avais j'étais en train de retirer de l'argent à un distributeur, et il y a un clochard qui arrive vers moi et qui me dit... je pensais qu'il voulait... que je lui donne de l'argent, qui me dit « Parlez-moi de moi ». Alors je dis « Comment ça, parlez-moi de moi ?» Je n'ai pas compris, quoi. « Ben si, parlez-moi de moi. Qu'est-ce que vous pensez de moi, là, quand vous me voyez ? Qu'est-ce que je vous inspire ? Dites-moi quelque chose sur moi. Parlez-moi de moi, s'il vous plaît. » En fait, je ne crois pas qu'il était fou. Je crois qu'on est tous un peu comme ça, quoi. En fait, on rêve d'une rencontre où, par exemple, dans un livre, où on se lit et on vous parle de vous.
C'est... une conclusion parfaite. Donc on va vous laisser
là. Ça y est,
c'est
fini ?
Bah oui.
Ah, dis donc, c'était rapide.
Bah oui, ça va trop vite, il y a trop de livres. Mais
bah
bon,
ouais, j'aurais bien parlé encore de tout cela, mais... Bon. Nos débuts dans la vie, Modiano. Vous savez, je le croise au jardin du Luxembourg.
Et vous lui parlez ?
Et je lui parle. Et il a toujours la gentillesse de s'arrêter. Et toujours la gentillesse de discuter avec moi. Et j'aime énormément la façon dont il écrit, évidemment, mais aussi dont il s'exprime. Je sais que les gens sourient en le voyant s'exprimer. J'avais adoré son discours quand il a reçu le prix Nobel, où il avait dit, d'abord il parlait de lui en disant « il », ça je trouvais ça très beau, et il disait peut-être qu'il a du mal à s'exprimer verbalement, à parler haut et fort, peut-être que ça vient du fait qu'il est tellement habitué à raturer ses écrits.
Mais oui, il cherche le bon mot,
il cherche
même en
le
parlant.
Bon mot, voilà. Et aujourd'hui, on devrait tous avoir le sens de la répartie, être hyper efficace, trouver le point final de chaque phrase et faire un bon mot. Et lui, il est à l'opposé de ça.
Ouais.
Et ça fait du bien.
Il dit tant pis, je vais prendre mon temps, mais je vais trouver le mot exact.
Ou je vais pas trouver, mais c'est pas grave.
Ou tant pis. Bon, mais merci beaucoup Isabelle Carré de nous avoir reçus. À bientôt.
À bientôt.
Merci beaucoup.
C'était chouette.
Et nous continuons nos visites. Nous partons chez Arthur Teboul, le chanteur-poète de Feu Chatterton. Bonjour Arthur Teboul.
Bonjour.
Ben merci de nous recevoir chez vous, dans votre colocation.
Exact.
Du côté de Nation à Paris. Mmh. On est au 7e étage, donc altitude. On voit le ciel et les toits de Paris, c'est assez beau. Et c'est un appartement de colocation, quoi. On se croirait un peu chez des étudiants, là.
Ouais, c'est vrai que la vie de tournée qu'on a eue depuis 3-4 ans nous a maintenus, en tout cas pour ce qui est du mode de vie, une sorte d'âge transitoire. Parce que même si on a envie de s'établir, d'habiter ailleurs, en fait, je me suis installé là il y a 3-4 ans, avec des copains. Et depuis, simplement, j'ai pas eu le temps de m'atteler aux tâches laborieuses de la vie quotidienne.
Et c'est d'autres membres de Feu Chatterton qui vivent ici ou pas ?
Non, c'est des copains d'ailleurs. Et puis d'ailleurs, ça a tourné, quoi. Je suis le seul à être resté depuis autant de temps. Les gens s'en vont, je deviens un peu une sorte d'entendant. Alors là, c'est des copines. J'aimerais bien partir pour avoir un truc à moi seul. Et puis en attendant, je suis quand même bien ici. Je suis dans cette petite chambrée là. Pas grand chose, c'est assez spartiate.
On a l'impression que vous emménagez. Là, il y a marqué service à thé, liqueur, verre et carafe.
J'ai quelque chose comme je disais avec la conservation. Ça va venir de ma mère, j'accumule. J'ai du mal à jeter. Donc je pense par exemple que ces services à thé, il ne faut pas le dire à ma grand-mère, mais je ne vais sans doute pas les utiliser. Là-bas, il y a des assiettes un peu vieilles. Mais j'ai envie de lui faire plaisir. Je me dis, on ne sait jamais. Donc au moment, plutôt que de dire que j'allais les jeter, je lui ai dit, t'inquiète pas. Je les garde, donc j'ai 4 cartons là avec des choses inutiles. Mais ils sont là comme les piles de vieux livres que j'ai trouvés dans la rue aussi.
Alors voilà, ouais, il y a des livres, une grande étagère de livres, et en dessous, il y a une valise avec des livres dedans.
C'est-à-dire qu'il y en a plein que j'ai pas lus, que je lirai sans doute jamais, mais on ne sait pas. Souvent, c'est un signe qui mène vers un livre, c'est un hasard, un concours de circonstances. Donc là, par exemple, il y a Suspense de Joseph Conrad. Bon, l'édition est vieille, donc c'est peut-être pas très agréable.
Je connais pas ce roman de Conrad,
et ben moi non plus. Mais je me dis.
Il est très vieux. Hein.
Ouais, il est assez vieux. Bah, je l'ai trouvé par terre.
Par terre ? Ah, même pas chez un bouquiniste ?
Ah non, par terre.
D'accord.
Souvent, quand il y a des.
Ah, mais c'est en version originale ?
Ouais. Okay. Faut que je progresse un peu pour le lire correctement en anglais. Parce que...
Juste en dessous, il y a Rudyard Kipling, donc l'auteur du livre de la jungle. Ducran.
Bah, pareil, c'est le
point
même.
Point d'exclamation. Ducran, point d'exclamation.
Ouais, comme point d'exclamation.
Feu Chatterton. Ouais. Avait toujours écrit avec un point d'exclamation.
Ça, tu vois, c'est un hasard encore.
Ouais, ouais.
C'est pour ce genre de signe que j'aime bien accumuler les choses. Bah alors souvent dans les piles que je vois dans la rue, il y a plein de bouquins. Je prends le temps de, enfin dans la rue, des cartons, je sais pas, un peu partout. J'aime bien regarder pour trouver un ou deux livres qui vont un jour m'intéresser. Et là, si j'ai pris Kipling et ce Conrad, c'est parce que je me souviens maintenant que j'étais dans un moment où j'étais assez attiré par l'idée de s'enfoncer dans la jungle, comme dans Au cœur des ténèbres de Conrad. Et ça m'étonnait pas que... Ou le livre de la jungle de Kipling, qui est une fable. Et ça m'étonnait pas... que les deux soient réunis dans une même pile. Il y a des liens entre les auteurs qui se font naturellement. Là, par exemple, en parlant de ça, je vois Moby Dick de Melville. Je trouve incroyable par son élan, son exaltation, sa force. C'est une épopée merveilleuse. Et ce qui est très fort aussi, c'est que Melville arrive à alterner très bien les moments de calme et les moments d'action. Ouais. Et il y a d'ailleurs, je pense que les passages qui m'ont le plus ému dans Moby Dick sont plutôt des passages contemplatifs. Au milieu de la mer, en train de voir le soleil qui se couche. C'est métaphysique. Et je pense, sans les avoir lus, ces bouquins de Kipling et de Conrad, c'est ce que j'espère y trouver. L'idée que dans l'aventure, en fait, c'est des romans d'aventure, quand même. En plus, chez Kipling, il y a une dimension fabuleuse, des contes et des fables.
Mmh. Ça pourrait faire une chanson chez vous, ça, avec de l'action, des moments plus complexes.
Ouais, c'est vrai qu'on aime bien ça. Et par exemple, le premier album est plus un album d'action, j'ai l'impression. Ça veut dire, il y a des moments de naufrage, des moments d'incendie, des moments de cavale. Celui qui vient, l'oiseleur, on a plus essayé de saisir des presque rien, des parfums, des couleurs, des petits instants fugaces, mais qui bouleversent l'intérieur.
Mais alors, on y vient vite, mais c'est vrai que j'ai voulu visiter votre bibliothèque parce que je trouve, et tout le monde trouve, que vos textes sont quelque chose de très poétique, de très littéraire. C'est très travaillé comme écriture. Et c'est connecté à quel type de poésie? Et c'est une sorte de... C'est votre bagage littéraire qui vous fait ensuite écrire comme ça? Ou est-ce que vous inspirez de tel ou tel auteur? Vous écrivez dans le style de pour telle chanson? Ou...
Non, ça jamais. Ça m'est jamais venu comme ça. Pour le coup, je me suis jamais dit... Je pense que c'est un exercice intéressant. C'est pas critique ce que je dis. Je pense que ça peut mener loin, ça peut être une bonne manière d'écrire, un moteur, de dire « Ah tiens, je vais tenter de le faire comme... » et puis ensuite trouver sa liberté. Mais moi, c'est pas du tout comme ça que je fonctionne. Je m'imprègne, je m'imbibe d'auteur, et en fonction de... Donc je ne suis pas maître, c'est en fonction de la période. Le premier album, en termes poétiques, était plus inspiré par la littérature du 19e, début du 20e, assez baroque. Il y a Wilde qui est là, il y a Rimbaud, il y a Huysmans, il y a Baudelaire.
Vous avez toute une collection, un coffret de Rimbaud, là. Vous êtes un lecteur de Rimbaud depuis toujours ou
c'est Non, pas depuis toujours. En fait, c'est ce que j'aime avec les grands poètes français, c'est qu'on y vient... D'abord, c'est l'Ophélie, moi, de Rimbaud, qui m'a touché. Un très beau poème donc, qui reprend le motif de l'Ophélie, du Hamlet, de Shakespeare. Mais les auteurs qui me touchent le plus sont ceux, par exemple, René Char. Voilà, René Char. Mm-hmm. Je suis tombé d'abord sur un vers que j'ai trouvé magnifique il y a quelques années. Il disait « J'ai pesé de tout mon désir sur ta beauté matinale pour qu'elle éclate et se sauve. » C'est merveilleux, c'est-à-dire qu'on pourrait s'arrêter à la première phrase, ce serait déjà magnifique. Ouais. Et en fait, c'est ce qui me touche vraiment très très profondément avec la poésie, et ce qui n'est pas l'art du roman, mais vraiment de la poésie, c'est qu'elle ne vient pas pour raconter une histoire, c'est-à-dire, c'est une manière de saisir un sentiment sans l'expliciter. Quand il dit « j'ai pesé de tout mon désir sur ta beauté matinale », c'est la forme autant que le sens qui font qu'on reconnaît un moment qu'on a vécu, tous, pour peu qu'on ait eu la chance d'être amoureux ou de dormir avec quelqu'un.
Et on le lit différemment, chacun.
Oui, on le lit différemment, chacun, et puis c'est un art différent que celui du conteur, de la pure narration. Ça touche, ça caresse l'esprit et le ventre à un autre endroit que le roman que j'adore, notamment Balzac, par exemple, ou le roman d'aventure dont on parlait, qui dresse un fil narratif en premier lieu. Dans la poésie, c'est comme si on essayait de capturer une image ou un parfum avec des mots. C'est étrange, on dit. Le fais pas avec des mots, fais-le avec l'art du parfumeur ou l'art du cinéma. Bon, aujourd'hui, à l'époque, ça n'existait pas, mais René Char a connu le cinéma. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est d'essayer d'utiliser le mot. Pour moi, c'est ça la poétique, à la différence du roman que j'adore. C'est de détourner un peu ou d'utiliser le mot pour faire vibrer autre chose que le langage à l'intérieur des gens, que l'intelligibilité,
la
magie.
Et le mot qui sonne, la musicalité des mots, ça vous intéresse, ça j'imagine. Quand vous écrivez, est-ce que vous avez une mélodie en tête et vous essayez de placer des mots qui sonneront dans la même harmonie, enfin je ne sais pas comment on appelle ça, vous essayez de trouver des tons, des T, des V qui vont sonner avec la mélodie que vous avez en tête? Vous essayez de faire sonner les mots ou vous essayez d'abord de développer ce sentiment-là dont vous parliez ?
Disons que mon écriture, c'est une aventure assez intime, personnelle, elle a évolué. Je commençais quand j'étais gamin. Mes premiers émois ont été des émois baroques, avec une forme de préciosité, de grandeur.
Baroque et noir et maudit un peu. Là, je ne suis pas surpris de croiser Lautréamont, les chants de Maldoror. Ouais. Ça correspond vraiment... Enfin, en tout cas, c'était mon idée en vous écoutant, à feu Chatterton. Et d'ailleurs, Chatterton est lui-même un poète maudit qui s'est suicidé à l'âge quoi, de 17 ans, 18 ans. Est-ce que je peux me permettre de vous demander une faveur? Mais j'aimerais bien entendre de votre voix le début, la première phrase des chants de Maldoror.
Avec plaisir. Chant premier. Plut au ciel que le lecteur, enhardi et devenu momentanément féroce comme ce qu'il lit, trouve, sans se désorienter, son chemin abrupt et sauvage à travers les marécages désolés de ces pages sombres et pleines de poison. Car, à moins qu'il n'apporte dans sa lecture une logique rigoureuse et une tension d'esprit égale au moins à sa défiance, les émanations mortelles de ce livre imbiberont son âme comme l'eau le sucre. Une belle image, ça.
C'est quand même... Ce qui est génial, c'est que c'est à la fois putassier, quoi, parce que d'entrée...
Paf! C'est publicitaire.
C'est du poison, c'est quasiment marketing.
Ouais, exact. C'est les premiers marketing.
Il y a un petit oiseau sur la bibliothèque et il y a un oiseau noir assez terrifiant, juste à côté, qui regarde votre lit. Vous arrivez à dormir quand même avec ça. Qu'est-ce que ça fait là?
Il se trouve que l'album qu'on a écrit, qui s'appelle L'Oiseleur, celui qui, en fait, met les oiseaux dans ses filets, une fois qu'on a eu fini le disque, on cherchait un nom. Mais les chansons, c'est un peu comme un jeu de cartes divinatoire pour soi-même. On prend la main et on voit ce qu'on a dans la main. Les chansons nous devancent un peu. On ne les maîtrise pas vraiment nous-mêmes. Donc à la fin, c'est marrant quand même, cet album est traversé par des oiseaux. Les oiseaux sont là parce qu'ils représentent ces petits moments qui nous surplombent, qui volettent, mais qu'on ne peut pas vraiment cerner. Et donc, pour habiller notre disque de ces oiseaux, bah, on a décidé d'aller les découvrir nous-mêmes. Alors, vivant, c'est plus compliqué à élever. Donc, on s'est retrouvé avec ces oiseaux-là.
Et vous les avez ramenés.
Ouais, exactement. Pour être nous-mêmes oiseleurs. Mais d'ailleurs, depuis, il y a un oiseau vivant que j'ai laissé chez mes parents. C'est quand même un peu plus gai. Un diamant de Gould.
Europe 1. Retour en studio et c'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide, à Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée, et à Grégory Delpech pour la programmation musicale. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.